Un goût de miel de Dominique Rousset, dit par Sophie Doll. Lamine. Le pavillon se trouve en Seine-et-Marne, je l'ai su plus tard. Sur la photo, aperçue en une d'un quotidien devant le kiosque, je suis frappée par la taille de l'avion, si proche du toit. Il semble que le pilote, par jeu, a incliné l'appareil pour venir frôler les ardoises de son aile avant de poursuivre sa route. C'est un après-midi de février, mais le temps est plutôt doux. Le soleil est sur la région depuis plusieurs jours, de quoi donner envie de bricoler au jardin. Au-delà gronde la rumeur de la circulation et d'autres avions à basse altitude signalent l'aéroport tout proche, mais ici, c'est quand même la campagne. Des arbres nus et des buissons en désordre, les feuilles en tas, quelques oiseaux frileux. La veille, Gilbert a déroulé au sol le grillage qu'il veut installer sur des piquets neufs. Il se ferait maintenant un passage vers l'atelier, entre les pots de terre emmitouflés, les arrosoirs, une brouette fatiguée, pour prendre ses outils. La pluie a fait gonfler le bois. Il doit forcer la porte d'un bon coup d'épaule qui le projette au milieu de la pièce. Et il voit tout de suite, recroquevillé à ses pieds sous l'établi, l'homme noir en chemise claire, une joue contre le sol. Gilbert s'en étrangle d'indignation. Il va réveiller ce type, probablement saoul, et le jeter dehors. Le temps de se demander s'il ne risque pas un mauvais coup, il note la lumière vive inhabituelle dans la pièce et le trou béant au plafond. Les planches du toit pendent à la verticale, l'ampoule a disparu, les tiroirs chargés de clous ont répandu leur contenu à terre. Alors qu'un nouvel avion approche du lotissement dans un vacarme familier et porte son ombre sur sa maison, Gilbert crie encore, de stupeur cette fois. L'homme à terre a une vilaine blessure au bras, une plaie ouverte bien visible sous la chemise déchirée. Ses jambes sont brisées, dans une posture grotesque, et détail curieux, il porte aux mains des sortes de moufles, ou peut-être des chaussettes. L'appareil, au même moment, amorce sa manœuvre d'atterrissage et libère les roues, laissant voir ses entrailles, un entrelac de barres et d'essieux, un gouffre obscur. Puis il poursuit sa descente vers la ligne des arbres et disparaît au-delà, dans un rugissement. En se penchant sur le corps, Gilbert découvre les traits à peine altérés d'un tout jeune homme, 18-20 ans au plus. Lamine, c'est son nom. Personne ne le saura. Le soir, à la télévision, j'écoute le maire qui s'est rendu sur les lieux pour réconforter Gilbert et son épouse. Il se dit inquiet pour sa ville, il est face à la caméra et il prend tout le monde à témoin. Nous avons déjà protesté. Cette fois, c'était un atelier de jardin. Heureusement, personne n'a été blessé, nous avons eu de la chance. Mais si c'était tombé sur des passants ou une école, est-ce qu'on se rend compte? Il dit ceci. Exactement. Dans son dos, les voisins approuvent. Quelqu'un a mis la main sur l'épaule de Gilbert qui hoche la tête avec force. Ils sont nombreux, les passagers clandestins. Ils viennent de partout. Celui-là rigole devant les journalistes qui ont envahi sa chambre d'hôpital à Los Angeles. Je voulais changer de vie et trouver du travail à Paris, la plus belle ville du monde. Je suis monté par l'arrière et j'ai attendu. Quand l'avion a décollé, les roues se sont placées à côté de mes jambes et tout est devenu noir à l'intérieur. Ça faisait un bruit d'enfer, mais je ne pouvais pas boucher mes oreilles, je me tenais à deux barres de fer à cause des vibrations. J'ai hurlé « Je veux rentrer chez moi !» Il a les cheveux en bataille, trois dents en moins, une vivacité d'oiseau. La veille, un employé s'affairant autour du Boeing à l'escale a remarqué un chiffon rouge pris dans la roue et découvert l'homme évanoui. Un cas exceptionnel. La distance depuis Tahiti était courte. À 12 km d'altitude, la température extérieure descend à moins 50 degrés. Le plus souvent, à l'approche de l'aéroport, le corps congelé tombe du train d'atterrissage. Chaque jour, quelque part, ailleurs, d'étranges voyageurs se glissent dans les soutes des avions, sous les châssis des voitures, entre les roues des poids lourds, dans les cuves des grands pétroliers. Chaque jour, ils embarquent à bord de mauvaises coques. Ils partent. Il faut qu'ils partent. Ils ont pris leur décision en famille et chacun les étreint au moment de quitter la maison. Les petits frères galopent longtemps sur la route à la poursuite du camion qui les emporte vers la ville. Au loin, une grand-mère perdue pour toujours s'en retourne en pleurant à son carré de légumes. Ou bien ils s'enfuient, bravant l'interdit d'un père dépassé, auquel ils ne veulent pas ressembler, rongés par le remords et déjà nostalgiques des sons, des odeurs de l'enfance. L'aventure est difficile et dangereuse. Ils ne le savent pas toujours. Mais cela ne changerait rien, ils la tenteraient quand même. Quelques heures, quelques jours, dans des conditions effroyables, puis ils meurent étouffés, noyés, brûlés, c'est selon. Il arrive même qu'ils tombent des avions. Au village de la mine, sur le portail d'une maison d'émigrés, un dessin d'enfant à la craie. Un avion transparent rempli de passagers, sous une grande bannière, Air de France. Lui s'en est allé de très bonne heure et il a marché à pied jusqu'à l'aéroport, une bonne demi-journée. Maintenant, il attend. La nuit ne tardera plus, elle viendra tôt par ici. Le vol de Paris partira à 18h25. La mine l'a appris de la bouche des chauffeurs de taxi. Il a gardé un peu de pain avec lui et deux bananes dans un sac en plastique. Et il serre sous son bras la petite couverture en polaire dérobée à sa mère, un trésor. Un peu plus tôt, il a eu l'idée d'acheter des chaussettes dans le hall des départs pour protéger ses mains. Puis, quittant l'enceinte de l'aéroport, il est retourné sur la route et il s'est mis à longer les clôtures tout autour des pistes, sans penser à rien, certain de trouver une solution. Le trafic sur le tarmac n'est pas très dense et les barrières, assez basses par endroits, laissent voir aisément les mouvements des appareils au sol qui frôlent les bâtiments. Une ou deux fois, la mine s'est collée à la clôture pour assister de loin à l'atterrissage d'un avion gros porteur et se laisser envahir par la secousse sous ses pieds, la puissante odeur du kérosène saturant l'air. À 18h20, la mine, qui n'a pas cessé de trembler, franchit d'un bond la barrière et s'aplatit au sol, le temps de s'assurer qu'il n'a pas été vu. Puis il enfouit les bananes et le pain dans la poche de son survêtement, enfile les chaussettes sur ses mains et se débarrasse du sac plastique. Moins d'une minute plus tard, le vol de Paris vient se placer à son tour devant la clôture. Il pivote sur lui-même pour se préparer au décollage et à son tour s'immobilise à quelques mètres. La mine s'élance.
Un goût de miel de Dominique Rousset, dit par Sophie Doll. Équipe de réalisation, Sébastien Labarre, Bruno Mourlan, Marion Guilaine, Jean-Mathieu Zand. Un goût de miel, adapté par l'auteur et publié au Seuil.